au cœur de l'orchestre.
France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Nous passons la semaine avec un des plus grands chefs de l'histoire, le tchèque Karel Hanschel, né en 1908 et que nous avons quitté hier à la fin des années 30, très engagé dans la musique moderne et à l'orée d'une carrière prometteuse. Seulement voilà, le 15 mars 1939, l'Allemagne hitlérienne envahit la Tchécoslovaquie. Les lois antisémites sont appliquées aussitôt. Hanschel n'a plus le droit d'exercer son métier de musicien. Il retourne dans sa ville natale et est employé comme bûcheron et mineur au ghetto. Puis il est emprisonné par la Gestapo à Tabor, où il devient ouvrier. C'est l'engrenage du malheur. Cette musique sombre et tourmentée que vous entendiez, c'est celle d'un compatriote et exact contemporain de Karel Hanschel, Miloslav Kabelats, né comme lui en 1908 et qui était chef de l'orchestre de la radio quand Hanschel y était lui-même ingénieur du son. Hanschel a dirigé en 1961 la création de cette symphonie inspirée par la tragédie de l'occupation allemande. Vous entendiez aussi la soprano Libuche Domaninska. Le 12 novembre 1940, 1942. Karel Anscher l'est déporté à Theresienstadt, Térésine. Vous savez, c'est ce camp de façade utilisé par les nazis pour berner la Croix-Rouge et faire croire que les camps de concentration étaient des colonies idéales où les enfants poursuivaient leur scolarité sur fond de vie culturelle active. Anscher y retrouve beaucoup de musiciens, entre autres les compositeurs tchèques Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Kraja, Victor Ullmann. Il est chargé de diriger l'orchestre du camp et il apparaît à ce titre dans un film de propagande nazie. Le Führer offre une ville aux Juifs. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. On le voit diriger une œuvre de Pavel Haas à la tête de l'orchestre à cordes qu'il a réussi à rassembler parmi les prisonniers, avec 16 premiers violons, 12 seconds violons, 8 altos, 6 violoncelles et une contrebasse. Les observateurs sont bernés, mais Anscher, lui, ne tarde pas à voir l'envers du décor. Il est confronté à la réalité de ce qui attend les déportés de Theresienstadt. Il est acheminé à Auschwitz le 15 octobre 1944. Il y a un nombre incalculable de mises en musique du Stabat Mater. Celle de Dvorak m'a toujours paru être la plus douloureuse. Il est vrai qu'il l'a composée après avoir perdu ses 3 enfants en 2 ans. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'en dirigeant cette œuvre, Hanscherl s'identifiait à la détresse de Dvorak. Car au moment où il est déporté à Térézine, il vient de se marier avec sa fiancée Vali et leur fils Jan naît dans le camp. C'est tous ensemble qu'ils sont transférés à Auschwitz par l'un des derniers transports, celui du 15 octobre 1944. Sa femme est gazée le 17 octobre, son fils le 30. Karel Hanscherl survivra jusqu'à la libération du camp au printemps 1945. On n'avait pas encore théorisé à l'époque la notion de résilience. Hanscherl pourrait certainement servir de cas d'école. Cet homme bon et optimiste n'avait pas quitté la Tchécoslovaquie à l'arrivée des nazis, comme s'il croyait qu'il ne pouvait rien lui arriver, lui qui ne vivait que pour la musique et se sentait si tchèque. L'amour de la musique va le sauver, il l'a toujours dit, en particulier de cette musique tchèque qui le faisait vibrer. Au retour de déportation, après avoir vu sa femme et son fils exterminés par les nazis, Karel Hanschel, que vous entendiez à l'instant dans « Par les prés et les bois de Bohème » de Smetana, est malade, affaibli, mais il sait qu'il ne peut survivre qu'en se remettant tout de suite à faire de la musique. Il est d'abord nommé directeur musical de l'Opéra d'État de Prague, fondé en 1945 par un groupe d'artistes résistants à la suite de l'insurrection du 5 mai 1945. Dans ce qui était jusque-là l'opéra allemand de Prague. Il a très peu d'expérience de l'opéra et il monte 6 ouvrages rien que la première saison. Il existe un documentaire où Hanschel est invité à parler de lui. On est dans les années 60. On y découvre un homme doux et souriant, un mélange d'énergie et de pudeur, d'humour et un peu de nervosité aussi. Il allume une cigarette chaque fois que l'une est éteinte. Il reste très pudique sur le deuil et l'épreuve qu'il a subi, mais il dit tout de même que diriger l'orchestre au camp lui a permis de tenir le coup et surtout, il dit la chose suivante, je vous le cite, hein, « Même si j'ai été amené à connaître les profondeurs abyssales de ce qu'un être humain peut infliger à un autre, je n'ai jamais perdu ma foi en l'humanité et après la guerre, je me suis remis à diriger avec une énergie intacte. » Karel Hanschel et la Philharmonie tchèque dans le scherzo de la 7e symphonie de Dvorak en 1962. Après-guerre, Hanschel reprend un certain goût à la vie par la musique, mais pas seulement. En 1947, à 39 ans, il se remarie avec une amie qu'il connaissait depuis 1938 et dont toute la famille avait aussi été exterminés dans les camps. Ensemble, ils reconstruisent un foyer où naîtront deux fils. À l'accession des communistes au pouvoir, il retrouve un emploi à la radio qu'il avait dû quitter à l'arrivée des nazis. Mais cette fois, il n'est plus un ingénieur du son qui dirige de temps en temps l'orchestre. Il est vraiment directeur musical de l'orchestre symphonique de la radio de Prague, tout en enseignant brièvement à l'académie où quelques-uns de ses élèves feront carrière, comme Zdeněk Koechler ou Martin Turnovsky. Et toujours cet engagement pour la musique du XXe siècle, en particulier tchèque. Qui a mieux que lui dirigé la Sinfonietta de Jana Tchèk? Ce premier mouvement de la Sinfonietta de Jana Tchèk était emprunté à la version, la seule, l'unique pour moi, hein, celle de Karel Hanschel. Alors non pas avec l'orchestre de la radio, qui le nomme directeur musical en 1947, mais avec la Philharmonie tchèque, qui reste la grande histoire de sa vie artistique. Une histoire qui sera le sujet de l'épisode de demain, d'Au cœur de l'orchestre, dans une réalisation de Marie Groux et des mixages de Lucas de Rhodes. Alors à demain, midi, sur France Musique.
France Musique, les essentiels. François-Xavier.
Il y a exactement un demi-siècle, s'éteignait David Oistrakh, l'un des plus grands violonistes de tous les temps. À cette occasion, nous explorons cette semaine des archives inédites recueillies par Bruno Mont-Saint-Jean, qui viennent de sortir dans un coffret de presque 60 disques. Et pour les deux dernières émissions, nous évoquerons un aspect méconnu du talent de David Oistrakh, la direction d'orchestre.
Les Essentiels, une émission France Musique, à retrouver sur le site et l'application Radio France.
Ce mardi soir, sur France Musique, retour au Festival d'Ambronay avec l'ensemble La Néréide de la jeune soprano Julie Rosé. Marenzio, Luzzaschi, Caccini, tout l'art du madrigal, de la polyphonie de la Renaissance italienne pour planer sous les voûtes de l'abbatiale d'Ambronay. Julie Rosé et La Néréide en Italie, un concert à découvrir ce mardi à 20h sur France Musique et l'appli Radio France.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
Deux grands concertos pour violoncelle par Gauthier Capuçon ouvrent l'émission demain.
Des concertos romantiques, Elgar et Walton, mais aussi des concertos baroques avec la réédition des 4 saisons de Vivaldi par Amandine Beyer.
Des cordes demain dans En Piste.
En Piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
Comme tous les jours, c'est un plaisir de la retrouver, Charlotte Landru-Chandès, pour les grands concerts du lundi au vendredi. Bonjour Charlotte.
Bonjour Christian Merlin, merci beaucoup. Ravie de vous retrouver également. Et vous, vous nous donnez rendez-vous demain à midi pour Au cœur de l'orchestre.
France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mezzo-soprano Marianne Crebassa, qu'on va entendre dans un répertoire plutôt romantique, au programme des mélodies de Pauline Viardot et de son père, Manuel Garcia, un extrait de Fantasio d'Offenbach et les mélodies grecques de Ravel. Parmi les interprètes, on entendra aussi le violoncelliste Edgar Moreau, le pianiste Geoffroy Couteau ou encore l'altiste Lise Berthaud. Pour commencer, une mélodie pour voix, violoncelle et piano, dit Sterneux, Les Étoiles, signé Pauline Viardot.
Oh.
Voix veloutée de la mezzo-soprano Marianne Crébassa, qu'on entendait d'abord dans Die Sterne, Les étoiles de Pauline Viardot, avec Edgar Moreau au violoncelle et Geoffroy Couteau au piano. Et à l'instant, trois chansons espagnoles signées Manuel Garcia, le père de Pauline Viardot, composé avec Pauline Viardot, Jalousie, Floris, La barque de l'amour, toujours par Marianne Crébassa et Geoffroy Couteau. Concert donné le 16 juillet 2013 au Festival Radio France Occitanie Montpellier. Après Pauline Viardot, Viardot, on va maintenant se tourner vers sa fille, Louise Hérite Viardot. Fille aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle a marché sur les traces de sa mère malgré des rapports plutôt conflictuels. Pauline n'était pas très présente pour elle quand elle était petite. Louise était souvent confiée à son ami George Sand. Après un mariage raté avec le diplomate Ernest Hérite de la Tour, Louise part enseigner le chant au conservatoire de Saint-Pétersbourg et donner quelques concerts. Mais manque de chance, de santé fragile, elle perd souvent son souffle et doit bientôt renoncer à chanter. Elle se tourne alors vers la composition. Elle écrit des lieders, des cantates, un opéra comique ou encore de la musique de chambre, sonates, quatuors. Elle a pas mal écrit et écrivait d'ailleurs très bien. Franz Liszt était le premier à être séduit par sa musique. Je vous propose donc de découvrir son quatuor espagnol, le quatuor en ré majeur de Louise Hérite Viardot.